Une vie, une œuvre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Julie Gacon et Yvon Croisier nous plongent dans l'univers du photographe Willy Ronis. Il naît le 14 août 1910 et meurt presque centenaire le 11 septembre 2009 à Paris. En 1936, il devient photographe reporter lors des manifestations pour le Front Populaire et photographie les défilés dans les rues pour la revue Regard. La photo de la petite fille au bonnet phrygien ou de la syndicaliste Rosa Zehner sont devenues des icônes de la lutte communiste grâce aux photographies de l'artiste. Il fut lauréat du Grand Prix National de la Photographie en 1979 et du Prix Nadar en 1981. Aujourd'hui, il est l'un des représentants les plus importants de la photographie humaniste française, style photographique qui consiste à capter fraternellement l'essentiel de la vie quotidienne des gens.
Willy Ronis, c'était un très grand photographe. Et c'était un homme merveilleux. C'était un homme courtois, élégant, d'un sens moral absolument irréprochable.
À quoi ressemblait-il ? Il était beau, il était clair, il avait les cheveux blancs. Il n'était pas... Il était d'un type sympathique. Il n'y avait aucun défaut qui sautait aux yeux, en tout cas.
Petite, j'ai le souvenir de Willy Ronis avec des cheveux. Et il n'y a plus beaucoup de monde maintenant qui a le souvenir de Willy Ronis avec des cheveux. C'était un homme pas très grand, que je trouvais très élégant.
Ah, il ressemblait à un tartare. Le crâne rasé, la moustache... Oui, c'était un tartare. Alors, il se rasait la tête, parce que quand il a commencé à être chauve, comme c'est un monsieur qui ne faisait jamais les choses à moitié, bah, du moment où il a commencé à perdre ses cheveux, bah, il les a rasés. Voilà. Et c'est comme ça qu'on l'a toujours connu chauve depuis les années 60, en gros.
Je dirais que c'était pour moi comme un oncle. Mais un oncle choisi par ma famille.
Donc, un peu le frère de votre père, Robert Doisneau.
Alors en même temps, c'était quand même deux personnes très très différentes. Et il y avait entre eux plus, sinon une fraternité on peut dire quand même, mais une très grande camaraderie. Et je choisis pas ce mot-là par hasard, parce que c'était deux personnes qui avaient le cœur à gauche, et très à gauche.
Ah, moi, Willy Ronis, que celui que j'ai fréquenté, il y a le photographe et puis il y a l'homme qui se confondent complètement. Je lui disais, toi, comment Willy, t'es le Mandela de la photo. Donc c'est ça pour moi. C'est-à-dire qu'il y a l'œuvre absolument immense, mais il y a surtout la manière dont il a transformé tous les gens qu'il a rencontrés. D'un seul coup, il y avait cette humanité dans le personnage. Il vous obligeait à essayer de vous mettre au niveau. Et donc, c'était un personnage avec lequel on ne pouvait pas tricher. Du tout.
Les souvenirs que j'ai de lui petite, c'est de la complicité qu'il y avait entre mon père et lui et de la façon dont j'entendais mon père parler de son métier. Tout d'un coup, quand Willy était là, il parlait de son métier d'une façon très très différente. Ils riaient beaucoup ensemble. Et je me souviens par exemple de vacances, ils parlaient tellement de photos tous les deux qu'ils avaient décidé de mettre une pièce sur la table à chaque fois qu'ils allaient évoquer un sujet. Enfin, alors c'était une rigolade absolument formidable parce que on partait sur autre chose et puis voilà, qu'est-ce que vous avez fait hier, etc. Et immanquablement revenaient à la photographie et hop, ils sortaient leur pièce ou leur billet, je ne sais plus.
Peut-être que Doisneau était plus joyeux que Willy. Willy était un monsieur assez sérieux, qui n'aimait pas beaucoup plaisanter, qui était assez distant. Willy n'a pas fréquenté les bistrots. Il n'aimait pas les bistrots, alors que Doisneau y passait son temps. Il y avait au ministère de la Culture un monsieur qui s'appelait Pierre Barbin, qui était un grand homme de culture. Il appelait Willy, Willy la rigueur. Vous voyez, ça marque le personnage, là. Hein. On rigole pas, là.
Willy Ronis, l'instant du déclic. Julie Gacon, Yvon Croisier.
À votre disposition.
On commence par quoi ? En même temps que l'horloge sonne, c'est comme des tic-tac, nous c'est des déclics. Est-ce qu'il y a des déclics que tu n'as pas commis, que tu regrettes de ne pas avoir fait, par exemple ?
Oui.
Allez, raconte-nous ça.
J'ai une histoire qui ne cesse de me turlupiner quand j'y pense, parce que ça a été un grand chagrin.
Conversation entre Willy Ronis et Guy Le Quérec, à Voix Nue, France Culture, 2009.
Il y a un certain nombre d'années, j'avais commis un livre qui s'appelait « Toute belle » et j'étais désespérément à la recherche d'une couverture. Et je me trouvais avec Marianne un dimanche matin.
J'ai oublié de préciser que Marianne, c'est ta femme.
Ah oui, j'avais oublié de dire que Marianne, c'était ma femme. Et que nous nous promenions ce dimanche matin à Brie-sur-Marne. Et tout d'un coup, je vois de l'autre côté de la rue une jeune femme, jolie, habillée d'un bermuda, ayant dans son bras gauche un bébé et dans son bras droit un très beau bouquet de glaïeuls. Et puis tout d'un coup, j'ai la révélation, mais voilà ma couverture. Et là, j'en ai conçu un dépit violent. Alors nous sommes repartis nous promener et j'avoue que j'ai eu les yeux humides pendant quelques minutes. Voilà, ça c'est un souvenir qui me turlupine chaque fois que j'y repense.
Est-ce que tu pourrais presque encore dessiner la photo que tu aurais faite ?
Ah ben bien sûr, je la vois.
Tu peux la dessiner presque ?
Je pourrais la dessiner. Enfin, dessiner, schématiser la situation. D'ailleurs, rien qu'en en parlant, un bébé dans le bras gauche et un bouquet de glaïeul dans le bras droit, on voit.
Le photographe le voit. Il le voit distinctement, le cliché qu'il n'a pas pu faire, que les circonstances l'ont empêché de réaliser. Et nous, voyons-nous dans les photos qu'il a signées et qui lui ont survécu, le photographe ? Et derrière le photographe, l'homme, Willy Ronis ? Chacune de ces prises de vue tourne les pages d'une existence paisible, toujours un peu hors champ, bord cadre, presque en marge et même un peu floue. La petite fille au bonnet phrygien sur les épaules de son père lors d'une manifestation du Front Populaire, la grève chez Citroën Javel, le retour des prisonniers, le nu provençal, les amoureux de la Bastille, sont autant d'épisodes d'une vie comme d'une œuvre dont nous aurions pu tout ignorer si deux photographes n'avaient jugé bon de les donner à connaître. Willy Ronis avait alors 70 ans. Durant les 29 années qui ont suivi, Willy Ronis n'aura de cesse de raconter chacun de ses clichés dont il se souvenait au détail près, l'instant du déclic.
Donc, Willy Ronis est né en 1910.
Pierre-Jean Amar, photographe, historien de la photographie.
Ses parents, sa mère est d'origine lituanienne, son père est d'Odessa, et il quitte ces pays-là à cause des pogroms qu'il y avait contre les Juifs. Il s'installe photographe de quartier, c'est-à-dire la boutique où l'on fait du développement d'amateurs, du portrait, des cartes d'identité, etc.
Cité Condorcet dans le 9e arrondissement de Paris.
Cité Condorcet dans le 9e. Donc, il fait des études secondaires, il a son bachot, il commence son droit. Il fait un peu de photos en amateur. Son père lui offre un appareil photo quand il avait 16 ans. Dont d'ailleurs, certaines sont de très bonnes photos. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a défendu cette idée que je partage totalement, c'est que l'œil d'un photographe n'évolue pratiquement pas avec le temps. La capacité à voir les choses, ça fait partie de l'inné.
Francine de Roudille, que savez-vous de la vie de Willy Ronis depuis son enfance, cité Condorcet à Paris dans le 9e?
Alors maintenant, je sais énormément de choses sur Willy parce que j'ai lu tout ce qui a été écrit sur lui, mais il n'en parlait pas. Les années 50, on n'est pas dans le souvenir de la guerre, on est dans l'euphorie de l'après-guerre. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix oublier ce qui s'est passé avant. En plus de ça, Willy avait eu une enfance quand même pas très heureuse. Le rêve de Willy n'était pas du tout d'être photographe, le rêve de Willy c'était d'être musicien. Et il était jusqu'au bout de sa vie, il pleurait en écoutant Bach, enfin il avait, c'est quelqu'un qui avait un amour éperdu de la musique, et pour qui la profession de photographe avait été de l'ordre du raisonnable, parce qu'il avait repris l'atelier de son, le studio de son père. Et donc il parlait pas du tout du passé, pas du tout. Il était juif, hein, Willy, donc d'origine, c'était pas quelque chose qui comptait même culturellement beaucoup pour lui, mais il était juif et pendant la guerre ça avait compté, il était parti dans le Midi, etc. Bon, c'est des gens qui se relevaient d'une tragédie complète et qui avaient pas du tout envie de ressasser les choses, et même pas de nous transmettre. Donc c'est au fil des images que j'ai commencé à parler de son passé avec lui. Parce qu'il y avait une photo, il y a une photo que j'adore qui s'appelle Le retour du prisonnier. C'est une femme qui est en train d'embrasser un homme sur un quai de gare. Et elle, un petit voile sur la tête qui montre qu'elle fait partie des soignants. C'est une photo un peu très mystérieuse, émouvante et incroyablement pudique. Et c'est voilà. Et puis il se met à raconter des petites bribes de choses comme ça. Mais c'est très tard. Donc pendant très longtemps, voilà, pour moi, il était un photographe, ami de mon père, travaillant en commande pour la presse de gauche en général. Il a beaucoup, beaucoup travaillé pour Regard. Quelqu'un dont le passé nous importait peu. On n'en parlait pas.
Le bon plaisir de Willy Ronis.
France Culture, 1995.
Willy, avant d'être photographe, tu as eu une vocation préalable.
Oui, j'ai été passionné de musique, je peux dire quasiment en naissant, mais j'étais dans un bain musical. Ma mère était professeure de piano. Elle m'a amené au concert, quelquefois. Et je devais avoir 7-8 ans, elle m'a amené un jour au concert, je crois que c'était les concerts Padeloup, au Cirque d'Hiver. Et on a donné ce jour-là « Jeu » de Debussy. Or, moi, je n'avais pas du tout l'habitude de cette musique-là, parce que j'entendais des musiques classiques. J'entendais du Clementi à la maison, j'entendais du Mozart, un peu de Beethoven, et puis du Mendelssohn, etc. Mais pas cette musique-là. Et ça m'a tellement bouleversé que ma mère m'a ramené complètement hagard à la maison et elle m'a mis au lit avec une fièvre de cheval. Donc c'était une passion, mais cette passion mélomaniaque, elle ne m'a pas quitté. J'aime énormément le jazz aussi.
T'as le numéro 1 de Jazzot.
J'ai le numéro 1 de Jazzot.
Alors, son père, qui avait donc cette boutique, meurt en 36. Et il est obligé de reprendre la boutique de son père pour faire vivre sa mère et son jeune frère, Georges. Et il fait un métier qui l'agace au plus haut point, auquel il ne trouve aucun intérêt, même pas financier, parce que ça marchait quand même pas très bien. Donc, il a vendu la boutique. Et là, il se retrouve libre. Et il décide de devenir photographe indépendant. Et il va faire des photos dans les rues. C'est comme ça qu'il l'a fait en 36, à la mort de son père, peu de temps après la mort de son père, la photo du 14 juillet. Il se balade dans les rues le 14 juillet 36 et il photographie dans la foule des gens, dont une petite fille qui est sur les épaules de son père, qui porte un bonnet phrygien et qui lève le poing. Voilà.
C'est en 1936 que Willy Ronis a commencé à photographier un peu comme son intuition le lui commandait, en sortant du studio de son père. Il lui brûlait les doigts et les yeux de vouloir se mettre à une photo beaucoup plus libre en quelque sorte. Comment la musique, Pierre-Jean Hamard, a influencé la photo de Willy Ronis?
Il disait souvent qu'il essayait de composer certaines de ses photos comme des fugues, c'est-à-dire en trois parties, avec un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan. Et quand on regarde son œuvre, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'images sur ce schéma-là.
Il disait que Jean-Sébastien Bach lui avait appris la rigueur dans la composition, les fugues donc, et le contrepoint.
Le contrepoint, oui. Alors ça ne me demandait pas trop sur le contrepoint, c'est pas mon truc. Hein,
c'est la musique qui m'intéresse, l'écriture. Moi, je vais être un compositeur.
Et tu te considérais doué pour le faire? Et c'est les événements de la vie qui ont contrarié la vocation?
Non, c'est un retour sur moi-même et une autocritique. J'ai trouvé que je n'avais pas l'étoffe pour être compositeur de musique. C'était pas assez intéressant ce que j'écrivais. Oui.
Mais toi, cette sévérité, parce que tu dis volontiers que tu peux être quelqu'un très content de toi.
Ah, sur la photo, quelquefois, oui.
Donc tu as rencontré très vite cette fierté d'avoir fait
oui,
ce que tu fais?
Oui, j'ai rencontré assez vite.
Parce que c'est un peu... enfin,
mais c'est
antinomique.
J'étais protégé par le fait que ça n'était pas une vocation, la photo, pour moi. J'ai eu des satisfactions tout de suite et ça m'a plu.
Et il devient un photographe reporter-illustrateur. Donc il faisait à la fois de la photographie de reportage et à la fois de la photographie de commande. Il faisait un peu de publicité, il a même fait de la mode. Il a travaillé 2 ans avec Vogue. Donc il a touché un peu à tous les métiers de la photo, ce qui était une caractéristique des photographes de cette époque.
En revanche, il ne part pas sur des fronts de guerre alors qu'il rencontre Capa. Il ne suit pas Robert Capa en Espagne. Est-ce que c'est quelque chose qu'il regrettera par la suite?
Non, Ronis n'avait jamais de regrets. Voilà, c'était un homme de conviction, et c'était un homme, une fois qu'il avait pris une décision, il ne revenait jamais en arrière, il n'avait jamais de regrets, et s'il en avait, en tout cas, il ne les exprimait pas. Alors, effectivement, il a fait du reportage social, mais il n'a jamais fait de conflit et de guerre, tout simplement parce qu'il avait charge d'âme, quand il a rencontré Marianne et qu'il a adopté, enfin qu'il a élevé Vincent, qui était le fils de Marianne, et qu'ensuite il l'a adopté, qu'il considérait vraiment comme son fils, il considérait qu'ayant charge d'âme, il ne pouvait pas prendre le risque d'avoir un accident. Et c'est comme ça, par exemple, que Capa lui avait demandé de fonder Magnum avec lui. Et il n'a pas fondé Magnum.
Francine Déroudy, pendant la guerre, Willy Ronis part en zone libre, revient à la Libération. Quand rencontre-t-il votre papa, Robert Doisneau?
Eh bien, j'en sais rien. Il y avait eu un premier directeur d'agence, le fondateur de l'agence, Charles Radeau, l'agence Raffo. Alors, Charles Radeau était hongrois. Et donc, les premiers photographes de l'agence, c'était des Hongrois. Il y avait Brassailles, il y avait Hergy Lando, Nora Dumas, et un certain nombre de photographes sont venus après s'adjoindre à ce groupe, dont mon père, donc dès 46. Et Willy, à quel moment, je ne sais pas, c'est sans doute là qu'ils se sont rencontrés, mais peut-être s'étaient-ils rencontrés avant, parce qu'en même temps, l'un comme l'autre étaient des photographes qui se considéraient comme des illustrateurs, c'est-à-dire qu'ils étaient des artisans, hein, ils n'avaient vraiment une modestie par rapport la dimension de leur œuvre artistique, mais totale, et par rapport à la lecture qu'ils en avaient, ils étaient même l'un comme l'autre très très sévères avec leurs images, et ils étaient un petit peu sur les mêmes registres aussi, donc il était logique qu'ils se rencontrent, aussi parce que en dehors de leur travail d'artisan, il y avait une défense de la profession de photographe qui se faisait. C'était une la profession de photographe de presse s'inventait complètement à ce moment-là. La presse photographique naissait. Et donc, il y avait une défense pour les cadrages, les signatures. Il y a une anecdote absolument formidable, par exemple. Mon père avait fait un reportage dans une galerie de la rue de Seine qu'il avait appelée la vitrine de Romy, c'est-à-dire qu'il était caché à l'intérieur d'une galerie dans la vitrine de laquelle il y avait un tableau de assez leste d'une dame qui montrait ses fesses. Voilà. Et puis, les gens qui passaient devant la galerie de Romy s'arrêtaient et avaient des expressions ou outrées ou riant, etc. La personne, Robert Giraud, qui tenait cette galerie, avait dit à mon père, tu devrais t'installer à l'intérieur, c'était pas croyable, enfin, ce qu'il avait fait. Et ça a été publié dans Point de vue et signé reportage Willy Ronis. À ce moment-là, tous les deux étaient représentés donc par Raymond Grosset, par l'agence RAFO. Raymond a bien entendu immédiatement téléphoné à un journal en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette erreur de signature, etc. » Et le rédacteur en chef a dit « Écoute, c'est pas grave, la prochaine fois, un reportage de Willy Ronis, on le signera Robert Doisneau. »
Willy, sur le plan de la composition, est un homme excessivement classique. C'est pas quelqu'un qui a fait des innovations, c'est pas quelqu'un qui a fait des images, je veux dire, extraordinaires, c'est-à-dire qui pouvait se reconnaître du premier coup d'œil. La meilleure preuve, c'est que quelquefois, on l'a confondu avec Doisneau ou avec d'autres photographes humanistes. C'est-à-dire que c'était des gens qui se servaient de la forme comme quelque chose de simple pour dire des choses simples.
Didier Deninx, Willy Ronis, très sensible à ce monde ouvrier, ce monde populaire qu'il photographiait, toujours avec beaucoup d'amour, mais il disait vouloir le faire sans aucune sensiblerie, sans misérabilisme. Il disait « Je ne suis pas Delacroix dessinant la liberté guidant le peuple avec le petit Gavroche ».
J'ai l'impression qu'il y échappe, Willy Ronis, en n'étant pas face aux gens. On sent dans toutes ses photos qu'il est à côté d'eux en même temps. Il y a quelque chose comme ça dans son regard, c'est-à-dire qu'il partage complètement une partie de cette vie. Il n'est pas extérieur, il n'est pas en reportage, Willy Ronis. Il est totalement, totalement à l'intérieur des siens, au milieu des siens, parce que son cœur bat au même rythme que les gens qu'il photographie.
Je vais à la rencontre des gens qui me ressemblent et le miroir que mes images leur tendent est le même où moi-même je me regarde,
ben voilà,
disait-il.
Et moi, je suis arrivée en 1946 à Paris.
Sabine Weiss, photographe.
Et n'ayant pas du tout souffert de la guerre, puisque j'étais en Suisse. Alors attendez, quand je voulais que je vous dise quand j'ai rencontré Willy, c'est un peu plus tard. Moi, je suis rentrée à l'agence RAFO en 1952. Et lui, je ne sais pas du tout. Est-ce que vous avez une idée à quelle année? Écoutez, le rencontrer à l'agence RAFO, c'était toujours un plaisir, parce que c'était un être très, très gentil, très, très charmant, très, très, très droit, très... Et on a bu pas mal de tasses de thé à l'agence RAFO ensemble.
Des tasses de thé ou du whisky?
Non, du tasse de thé, parce que l'agence RAFO était une agence familiale. Il y avait Monsieur Grosset, mais il y avait aussi les sœurs. Mad et Mimi, et il y en avait une qui apportait le thé à 4 heures. C'était une atmosphère, et tout ça se passait dans un petit appartement.
Comment vous, Sabine Weiss, qui en étiez, qui en faites partie toujours, on dit d'ailleurs de vous que vous en êtes la dernière représentante, comment vous définiriez ce courant humaniste de la photographie?
Écoutez, c'est un terme qui est venu il y a pas très longtemps. C'est un terme nouveau. C'est assez juste, parce que finalement, en tout cas dans ma photographie, c'est la seule chose qui m'intéresse. J'aime bien qu'on sente la personne quand je la photographie, enfin qu'elle représente quelque chose, que ça soit la solitude, que ça soit la gaieté, enfin qu'elle dise bien ce que c'est l'être toujours dans un instantané. C'est le courant qui touche le cœur.
Ce courant n'est pas né comme ça, brutalement, dans les années 40, comme on l'a dit, c'est pas vrai.
Bertrand Evenot, Le bon plaisir ou l'ironie, 1995.
Quand on remonte dans le temps, moi je me souviens, j'ai beaucoup étudié cette période, et un journal qui est paru en 1896, je crois, qui s'appelait Paris Moderne, c'est le premier journal qui a commencé à publier des photographies de rue, quotidiennes, si l'on peut dire, à savoir, justement, les hommes des rues. Et il reprenait une phrase de Baudelaire que je ne connais pas par cœur, mais qui, grosso modo, disait qu'il y avait deux façons de faire de l'art, ou d'aller dans l'exceptionnel, ou d'aller dans le naturel et le quotidien. Et eux disaient, nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous démontrer le quotidien dans lequel vous vivez. C'est ça, la photographie humaniste.
Deninx, on est sur la bonne route là pour aller chez Daniel Pipard, le peintre Daniel Pipard à qui Willy Ronis rendait visite le dimanche avec sa femme.
Oui, c'est sa moto dans le coin, mais là on est dans le parc de Belleville parce que toute une partie du quartier que connaissait Willy et qu'il a photographié a complètement disparu et ça a été remplacé par un superbe parc. Hein, mais la rue Villain, qu'il a beaucoup photographié, là, elle a complètement disparu. Et c'est une rue qui est assez curieuse parce que c'est une rue, maintenant, il n'y a pas de numéro. Et c'est assez curieux parce que cette rue, c'est une rencontre entre l'univers de Willy Ronis, et c'était la rue quand même de Georges Perec, et c'est la rue des effacements. Georges Perec, il a uniquement travaillé sur ça, sur les façades qui s'effaçaient. Et il y a des textes où il dit qu'il y avait une laverie comme ça et que on voit pratiquement plus le terme laverie qui a été effacé par le temps et par les éléments. Et il n'a pas été là, Georges Perec, pour voir que la rue a été totalement effacée et que c'est une sorte d'hommage violent à son œuvre. Et donc, ce qui nous reste de ça, c'est les textes de Perec et puis les photos, les immenses photos de Willy Ronis. Ouais.
Heureusement, écrivez-vous, l'appareil photo a inventé un temps, le passé indéfini.
Bah oui, parce que ça fiche pas le temps, comment les photos, ça donne une sorte de halo, comme ça. Moi, c'est comme quand on sort d'un rêve, comme ça, on essaye de le rattraper. Et donc, les photos, elles donnent un petit peu ce sentiment-là, quoi, d'un temps qui est pratiquement à portée de main. Et plus on approche la main, et plus il s'en va, quoi.
Tout ce qui a disparu de Belleville depuis ces photos prises entre 1948 et 1953, que ce soit les cheminées chapeautées de Belleville, oui. Que ce soit les escaliers à flanc de colline. Alors si, là, on en grimpe pas, mais c'est plus le même.
Non, c'est l'escalier du parc, comme ça. Belleville, c'était véritablement une... Il y avait une atmosphère de banlieue. Willy Ronis le dit. Il dit, quand j'arrive à la fin des années 40 pour visiter mon ami peintre Daniel Pipard, c'est un endroit que personne ne fréquente parce que ça a un petit peu la marque d'infamie qu'ont aujourd'hui ce qu'on appelle les quartiers. Et donc ça avait ce caractère. Ce quartier-là était un quartier marqué véritablement par la vie populaire, par les ateliers, par le travail et aussi par l'immigration.
C'est un quartier où la vie est assez dure et pourtant il y a une gaieté dans les photos d'Willy Ronis.
Oui, parce qu'il y a cette vie de quartier qu'il arrive à saisir. Bon, il y a les mariages, il y a toutes ces choses, les rencontres. Et donc on a la présence des cinémas, de toute une série d'endroits comme ça, de cabarets et tout. Donc il saisit toute cette chose. Et curieusement, Willy Ronis, dans les années 50... J'avais retrouvé tout un reportage qu'il avait fait sur Belleville avec Jean-Pierre Chabrol. Comme ça, une photo où on voit toute une série de jeunes, ils sont une vingtaine autour d'une table, avec des bougies qui les éclairent. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que c'est que cette photo? On a l'impression de conspirateurs russes, comme ça, avec des tignasses, des yeux qui lancent des éclairs. Et il me dit, c'était avec Jean-Pierre Chabrol, on faisait un reportage sur les jeunes et les bandes de jeunes de Paris. Et à Belleville, ils étaient tombés dans un sous-sol. Et à un moment, l'électricité s'est coupée, comme beaucoup, souvent après la guerre. Et les jeunes ont allumé des bougies, ce qui donne déjà cette atmosphère d'éclairage aux bougies. Et puis, en fin de compte, c'était une réunion d'une bande de gens qui faisaient de la chorale. Et quand on a l'explication, c'est ça qui est extraordinaire dans les photos de Willy-Ronnie, c'est-à-dire que vous êtes saisi par le génie de la mise en lumière comme ça et tout, et vous avez une atmosphère vraiment de conspiration. Et quand vous avez l'explication, c'est quelque chose de touchant.
Willy n'est pas vraiment un portraitiste, c'est-à-dire il a pas beaucoup photographié les gens pour leur tête.
Pierre-Jean Hamard.
Il a photographié les gens pour ce qu'ils étaient, ce qu'ils représentaient dans la vie, sur le contexte qui les entourait, sur leur fonction sociale. Mais c'est pas quelqu'un qui recherchait les gueules. D'ailleurs, il y a très peu de photos de Willy-Ronnie qui sont des gros plans de visage. Là, le délégué syndical, tiens. Cette photo qui a fait qu'à un moment donné de sa vie, il a changé un peu son orientation professionnelle et il a été obligé de ne plus travailler avec l'agence RAFO qui diffusait ses photos aux États-Unis, en particulier chez Life, où il y avait eu quelques problèmes de légende qui lui déplaisaient parce que ça détournait un peu le sens de ses photos et ne voulait pas prendre le risque de cela. Et il a préféré ne plus travailler avec RAFO pour ne plus prendre ce risque-là.
Alors Willy avait, pour ce qui est par exemple du parti, une foi du charbonnier.
Francine de Roudille.
Willy était complètement dans la foi en un monde nouveau, en des jours meilleurs, etc. Il avait sa carte.
Du Parti communiste.
Du Parti communiste. Il n'était pas question de pactiser avec les Américains. C'était quelqu'un de totalement intransigeant, cet homme si doux, si gracieux, si élégant, si aimable, qui était d'une courtoisie dans les relations à autrui absolument remarquable. Tout d'un coup, il devenait totalement cassant, il se fâchait, il était... Tout d'un coup, il y avait quelque chose qui, pour lui, était de l'ordre de l'insupportable. Donc, il y a eu... Voilà, cette espèce de fuite de Paris. Et je crois que dans son travail, c'est un moment où il a pensé que la photographie qu'il aimait ne trouvait plus les bons supports. C'est vrai, il y a eu une crise pour ce qu'on appelle la photographie humaniste. Et donc, Willy, c'est ça la photo qu'il aime faire. Il aime parler des grèves ouvrières et les grèves des mineurs en 52. Il a admirablement couvert ça. La mémoire textile à Mulhouse. Il est dans cette ambiance-là.
Qu'est-ce qui se passe alors?
C'est une usine qui est en grève et les ouvriers sont réunis et ils attendent l'arrivée du délégué syndical qui va leur donner les résultats des négociations qui avaient lieu avec le patron de l'usine. Voilà. Et c'est dans cette foule de personnages que on a fait une des retrouvailles de Willy, puisque un des garçons qui est là, son fils l'a reconnu dans la photo de Willy et il a rencontré Willy et il lui a dit ça c'est mon père. Voilà, c'est celui-là, là, celui qui était à gauche. Là. Willy, il aimait les foules, mais il aimait surtout les individus qui étaient dans les foules. Alors quand il pouvait en marquer un par rapport aux autres, il le faisait. Et ce qui permettait d'ailleurs à Willy de se raconter énormément d'histoires sur les photos qu'il prenait. Il s'inventait l'histoire des gens qu'il photographiait. Parce qu'il n'avait jamais de relation avec les gens qu'il photographiait. Donc, il s'inventait l'histoire.
Par exemple.
Par exemple, il y a cette photo qu'il a faite à Belleville-Ménilmontant au pied de la rue Villain, que l'on appelle maintenant Valparaiso.
Alors Didier Deninx, je suis embêté que les numéros de rue de la rue Villain aient disparu parce que je cherchais le 55 pour vous y emmener. Oui. Est-ce que vous savez à peu près où il peut se situer?
On ne doit pas être loin là. On ne doit pas être loin dans le parc là. Oui, non, c'est à peu près ça parce que moi aussi je suis essoufflé et le personnage sur la photo de Willy-Ronnie. Il s'arrête à peu près à la moitié du chemin, avec sa valise, il la pose devant le 55, et là, au 55, il y avait, un troquet, un café, qui s'appelait Au repos de la montagne. Et donc, Au repos de la montagne, c'est là où on pose ses valises, et c'est la montagne de Belleville, on en a gravi la moitié, on s'arrête au 55, et sur la photo de Willy Ronis, donc, il y a la façade de ce café, avec un homme qui est en train de boire un petit blanc, comme ça, il est en Marcel. Et puis, il y a des enfants qui sont en train de faire une ronde. Et puis surtout, le personnage central, c'est ce vieil homme habillé de bleu et qui a posé sa valise et qui regarde les enfants qui sont en train de jouer en reprenant sa respiration. Et cette photo, c'est pour moi un des chefs-d'œuvre de Willy Ronis. Et quand j'ai fait ce livre « Belleville, Ménilmontant » avec lui, je lui ai demandé, je lui ai dit « voilà ». Je veux travailler sur ce regard, sur le regard de cet homme devant le 55 là, de la rue Villain. Il est en train de regarder les enfants, il a cette valise et ce regard énigmatique, il se pose sur une petite gamine. Et j'ai l'impression qu'il se pose la question, est-ce que cette gamine, elle n'est pas quelque chose pour moi ? Et quand on a discuté de ça, il m'a dit, tu sais, cette photo, je me suis posé la même des questions aussi sur ce regard. Et il me dit, et pour moi, cette photo, je l'appelle Valparaiso.
Bien, Willy s'est raconté l'histoire de ce monsieur. Il s'est inventé l'histoire d'un homme qui avait quitté sa femme il y a plus de 20 ans pour partir à Valparaiso faire fortune, qui finalement n'a pas fait fortune et qui revient un peu penaud à la maison avec sa petite valise en se disant « Est-ce que ma femme va accepter de me revoir ? Est-ce que ces enfants que je vois là, ce sont peut-être les enfants de ma cadette ?» Et il se pose toutes ces questions.
La photo, elle dit tout ça. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'une photo, une fraction de seconde, comme c'est une fraction de lumière qui est saisie par l'appareil et le regard du photographe, d'un seul coup, vous avez une vie entière. Et à la sortie du livre, donc, on se retrouve dans un endroit mythique de Belleville qui s'appelle la Bellevilloise. Et Willy Ronis racontait son Belleville à travers les photos qui sont dans le livre. Et les photos étaient projetées en très grand derrière nous. Puis arrive le repos de la montagne. Et il y a quelqu'un qui se lève et qui dit « Je sais ce qu'il y a dans la valise ». Et ça a été un moment absolument incroyable. Tout le monde s'est retourné vers lui. Willy Ronis dit « Comment ça, vous savez ?» Et en fin de compte, c'était le fils de la personne qui était sur la photo et qui ne connaissait pas la photo, qui était venu à Paris pour tout à fait autre chose. Et le livre était exposé comme dans une librairie. Il l'avait feuilleté, il était tombé sur la photo de son père. Et tout le monde lui disait « Mais qu'est-ce qu'il y a dans la valise ?» Et en fin de compte, son père était quelqu'un qui était flaconnier, qui travaillait dans une entreprise qui était dans le bas de Belleville, peut-être au métro Couronne. Il faisait des suspensions, des bouchons et des suspensions qu'il y avait dans les flacons de parfum. Et donc, tous les matins, il descendait avec sa valise, avec tous ses instruments, et puis tous les morceaux de ferraille, les morceaux précieux, les morceaux de cristal. Il allait travailler, et le soir, il remontait avec sa valise. Et avec Willy Ronis, ce genre d'aventure à travers une photo, on pourrait le multiplier par 10, par 15, par 20. C'est-à-dire qu'il ne figeait pas la vie, quoi. Il a démultiplié.
Pierre-Jean Hamar, Willy Ronis aimait à dire vers la fin de sa vie qu'il avait retrouvé 26 des sujets, des personnes qu'il avait prises en photo au cours de sa carrière. 26 dont certaines rencontres méritent d'être racontées et vous aimez à les raconter.
Ah ben, j'aime à les raconter, surtout que je les ai filmées puisque j'avais demandé à Willy d'en raconter quelques-unes des plus significatives. Alors, il y a bien sûr, il a retrouvé, alors ça c'est une des peut-être des plus importantes retrouvailles, il a retrouvé Rose Zehner, la syndicaliste de chez Citroën qu'il a photographiée en 1938. Et Rose Zehner, il l'a retrouvée
grâce au livre Le fil du hasard, puisque en fait il n'avait jamais publié la photo de à l'époque où il a faite en 38.
Décrivez-la.
Alors, on voit donc une dame monter sur une estrade qui harangue ses amis, puisqu'elle est déléguée syndicale CGT, et elle est dans une attitude très virulente, la main levée, enfin bon. Donc il y a vraiment une ambiance très très forte, et on comprend grâce à cette photo ce que c'était que faire une grève dans ces années-là. Et ils se sont retrouvés au travers d'un film qui a été tourné par Barberis, je crois.
Patrick Barberis.
Oui, par Patrick Barberis. Et c'est sous l'œil de la caméra que les retrouvailles se sont faites. Et donc ça a été une fête assez extraordinaire de ces deux personnages qui avaient atteint déjà un âge canonique et qui se sont retrouvés comme ça, qui sont tombés dans les bras l'un de l'autre, quoi.
Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, mais on était, enfin, Rosener truculente, très drôle, très bavarde, et Willy Ronis quand même toujours très sérieux.
Les images sont
rigolotes.
Willy Ronis n'était pas un homme expansif. Willy Ronis ne savait pas, ne voulait pas ou ne pouvait pas, je choisirais pas le mot, laisser transparaître ses sentiments. Moi, j'en ai beaucoup souffert. Surtout dans les moments de ma vie où j'ai eu de grosses difficultés, je n'arrivais pas à avoir ce contact. Et ça, ça a été, bon, bah, ça fait partie des choses, hein. Il était comme ça, hein. Par contre, il pouvait s'émouvoir à cause d'autres choses. Par exemple, je l'ai vu très souvent pleurer en écoutant de la musique. Comme ça. Il faut accepter le père qu'on a choisi. Parce que moi, je l'ai choisi comme père. Le mien, je ne l'avais pas choisi. J'ai eu le malheur de le perdre très jeune. Mais Willy, je l'avais un peu choisi comme second père. Voilà. Donc, ben, voilà, il avait des qualités, il avait quelques défauts, comme tous les êtres humains.
Donc, quand vous le rencontrez dans les années 70, à la toute fin des années 70...
Non, pas à la toute fin. Non, je l'ai connu en 72. Je l'ai connu en 72 quand il est venu enseigner à l'université à Aix-en-Provence, où j'étais étudiant et moniteur, et où on m'avait recommandé d'aller écouter ce monsieur. Et je ne l'ai pas écouté tout de suite, parce que je ne savais pas qui c'était, et que je l'ai confondu avec un autre photographe, qui s'appelait Willy Rizzo, qui est mort maintenant. Et c'est au bout d'un mois que ce prof m'a dit « Alors, Amar, vous êtes allé écouter Monsieur Ronis, il paraît que c'est super, extraordinaire. » Alors, j'étais un peu confus. Voilà. Et donc, j'ai dit « Je vais y aller. » Et là, on est tombé en amour, quoi. Voilà. Ça a été une vraie rencontre. Et c'est là où je me suis dit « Mais voilà, moi-même, je ne connaissais pas l'œuvre de cet homme, où j'avais vu que, c'est pas 5 ou 6 photos. » Donc, je me suis dit « Il faut absolument qu'on puisse connaître cette œuvre. » Et c'est là où j'ai eu l'idée de faire un livre. Mais le problème, c'est que monsieur Willy Ronis ne voulait plus faire de livres, parce qu'il avait eu de très mauvaises expériences dans les années 50-60. Il avait eu des livres qui avaient été massacrés.
C'est-à-dire?
Les photos avaient été recoupées, les légendes étaient mauvaises, l'impression était pourrie. Enfin, vraiment, c'était des ratés complets. Il y en a eu deux, dont il ne voulait même pas qu'on cite les titres, hein. Et il a fallu que j'insiste pendant presque 2 ans pour qu'il dise oui. Alors, je vous passe les détails parce que c'est un peu long, mais c'est Guy Le Quérec qui a contacté Claude Nori, des éditions Contre-Jour, et c'est Claude qui a accepté de faire ce premier livre qui s'appelle « Sur le fil du hasard ». Donc voilà comment, en fin 79, début 80, est sorti le premier nouveau livre de Willy, après finalement 54, « Le Belleville-Ménilmontant », c'est-à-dire 25 ans plus tard. Mais il n'était pas connu ni du grand public, un petit peu de ses confrères de sa génération, mais c'était tout. Donc moi, quand je l'ai connu, par exemple, il m'avait dit « Tu sais, je crois que je vais tout jeter, et si tu veux, je te donnerai les 100 meilleurs négatifs, tu feras ce que tu veux avec. » Et c'est là où, quand je lui ai proposé de faire ce livre, et que finalement il a accepté de le faire, ça tout est reparti de là. Et alors, Le fil du hasard a eu un succès fou. Donc c'est à partir des années 80 que... Il est revenu sur le devant de la scène. Quelques années après, c'est à ce moment-là aussi qu'on a eu l'idée de cette donation à l'État de son œuvre qui lui a permis de venir vivre à Paris, puisque l'État, en contrepartie de la donation qu'il avait faite, lui a fourni un appartement jusqu'à la fin de sa vie.
Didier Deninx, quand vous rencontrez Willy Ronis, il a déjà 70 ans. Il a passé sa traversée du désert. Il est de retour à Paris. À quoi ressemblent les 30 dernières années de sa vie, puisqu'il va vivre très vieux jusqu'à 99 ans?
La rencontre que j'ai, elle explique un petit peu ça. C'est-à-dire que Willy Ronis, moi je connais son travail et je le rencontre vraiment par hasard. C'est-à-dire que ma femme doit est chargée d'offrir un cadeau à quelqu'un qui quitte l'entreprise, une entreprise culturelle que cette personne a créée. Et je sais que cette personne s'intéresse à la photo. Je dis, ce serait bien de lui offrir une photo, par exemple, de Willy Ronis. Et elle me dit, mais comment je fais pour contacter Willy Ronis? Et à ce moment-là, il y avait un instrument qui s'appelait le Minitel, je mets Willy Ronis Paris sur le Minitel et j'ai 22 rue de Dagny, le numéro de téléphone, je dis ben voilà, clac, et on téléphone et on a Willy Ronis en direct, ça sonne deux fois, et oui, allô, bon, monsieur Willy Ronis, on voudrait acheter une photo, vous savez comment on fait? Il me dit, ben, c'est très simple, vous venez, vous êtes libre quand? Et deux jours après, on se retrouve dans l'atelier de Willy Ronis en train de choisir une photo. Donc, je crois que ça explique beaucoup de son ouverture au monde, quoi. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un qui est avide de rencontres. Et puis, quand on vient rechercher la photo, moi, je connais rien de tout ça à l'époque et tout. Quand la photo est là, avant de la faire encadrer, je dis, ah oui, bah c'est pour un cadeau, est-ce que vous pourriez la signer? Et il le fait, quoi.
Quelques années plus tard, vous essayez de le convaincre et vous réussissez à le convaincre de republier ses photos sur le quartier de Belleville-Ménilmontant, publié une première fois en 1954.
Non, les choses se passent que on a fait un livre avant avec Willy Ronis. Ça a été un livre sur 1936 et j'avais fait une préface. Et ensuite, quelques années après, Lionel Hoebeck nous a remis ensemble pour faire une réédition de Belleville-Ménilmontant. Le livre avait été publié en 54, je crois, avec une préface de Pierre Macorlan, et Louis Ronis considérait que la préface avait pris un petit peu de bouteille, et il m'avait demandé de travailler sur une nouvelle préface.
Quand il manipule à nouveau ces photos qui datent de plus de 30 ans, est-ce que Willy Ronis se rappelle, vous parle des détails, de la couleur d'une robe, d'une odeur? Il se vantait d'avoir une excellente mémoire.
Oui, non, ça c'était absolument fascinant. Hein. Jusqu'au bout, comme ça, il a eu cette capacité à se remémorer les parcours qu'il faisait. Moi, à certains moments, il me stupéfiait. Il me dit, oui, ce matin-là, mais ça c'était 50 ans avant, ce matin-là, je suis sorti de chez moi, il y avait du soleil, je me suis dit. Et donc, il se rappelait de toute une série comme ça de choses sur ses photos. Non, on marchait et il se rappelait des cadrages. Et là, j'ai fait telle photo, là, j'ai fait telle photo. Donc, il avait cette mémoire absolument incroyable, hein, incroyable.
Photos de Willy, c'est les photos d'un musicien pour moi. C'est la recherche de l'harmonie.
Francine de Roudille.
La lumière est absolument essentielle dans les images de Willy, les très très grandes images de Willy, le nu provençal. Bon.
Sa femme prise de dos se lavant dans l'évier et le lavabo de leur maison, de l'île sur la Sorgue.
Où Vincent Aéromodéliste, c'était le fils de Marianne, sa femme, qui était un petit garçon dans un jardin, qui lance un petit avion comme ça. C'est un petit avion papier. C'est une photo d'une tendresse incroyable où Vincent et le bol, il prend son petit déjeuner. Il y a un rayon de soleil qui semble divin. Vous voyez, il n'aurait pas aimé que je dise ça, mais sur son bol de chocolat. Enfin, les photos d'une douceur. Willy, il n'avait pas de malice. Willy, il aimait que le hasard se pose et en profiter.
Ça, c'est son fils, Vincent, lorsque Willy l'a vu au travers de la fenêtre de la maison de Gordes, en train de jeter un avion, un modèle réduit.
Pierre-Jean Amar.
Dans le soleil, et il a trouvé cette scène très jolie. Mais le problème, c'est que là, il n'a pas pu la fixer. Parce qu'il l'a vu, mais l'action était terminée. Donc, c'est une des rares photos de Willy Ronis
qu'il a remise en scène, où il a redemandé à son fils de relancer l'avion, et il l'a refait 3 ou 4 fois.
Voilà. Mais c'était très rare que Willy Ronis demande à ses, ah, oui, à ses sujets de, ah, oui, de oui, s'y remettre.
Il n'y a pas 10 photos dans son œuvre qui, où c'est comme ça.
C'était un personnage avec lequel on ne pouvait pas tricher, du tout. De la manière dont il n'a jamais triché avec, avec son œuvre. On peut prendre toutes les photos, comment, à aucun moment il négocie son art, à aucun moment. Donc moi c'est quelqu'un qui a modifié ma vie, hein, les rencontres avec Willy Ronis, c'est-à-dire d'avoir un personnage aussi exemplaire.
Et vous, si vous deviez retenir une photo?
S'il y a une photo, ça reste la péniche aux enfants. Vraiment, ça reste cette photo avec le train de péniche comme ça, derrière Notre-Dame, et puis la manière dont il capte un môme sur le tricycle dans le ventre vide de la péniche, dans le ventre vide de la baleine, comme ça, donc il y a ça. Et puis quand on sait que cette photo, c'est un miracle absolu, quoi. C'est une photo où il est... D'un côté du pont, il voit ce train de péniche arriver, il photographie, et j'ai vu la planche contact. Il fait des photos extraordinaires, il en fait une dizaine. Et puis, quand la péniche, une des péniches va être avalée par l'ombre du pont, il s'aperçoit qu'il y a des enfants qui jouent dans cette péniche vide. Et il se met à courir, et il fait une seule photo de l'autre côté du pont, comme ça, et il fait cette photo absolument extraordinaire, fabuleuse. Et c'est un moment de bonheur absolu, cette photo.
Pierre-Jean Hamard, je voudrais que vous nous racontiez l'histoire de la 27e rencontre. Une rencontre que vous avez faite. Willy Ronis était mort depuis 1 an. Et vous avez retrouvé les 3 petits-enfants de Lorraine. Est-ce qu'on peut déjà décrire cette photo qui, pour moi, est... parmi les plus belles de Willy Ronis.
Donc c'est une photo où l'on voit une route. Sur cette route, 3 petits-enfants en pèlerine, ils se tiennent par la main. On les voit de dos. Dans le fond de l'image, on voit une traction avant qui vient vers nous. Et puis, il y a au fond des fermes. Voilà, donc on est en pleine campagne. Donc voilà. Et cette photo, qui s'appelle Lorraine 1954, est une des photos effectivement les plus célèbres de Willy. Alors, cette photo, moi, ça fait partie des photos que j'ai beaucoup tirées dans ma vie pour lui, dont je suis aujourd'hui d'ailleurs propriétaire de certaines, et que je mets quelquefois en vente. Alors, j'en avais mis un exemplaire de cette photo en vente en Belgique. Et quelques jours avant la vente, le commissaire-priseur m'appelle en me disant « Monsieur Hamard, voilà, je viens de recevoir un coup de téléphone de quelqu'un qui est intéressé par cette photo, donc il met un ordre d'achat sur elle, mais il m'explique qu'il est un des 3 enfants de la photo. Et cerise sur le gâteau, il m'explique aussi que les 2 autres enfants sont son frère et sa sœur, que tous les 3 sont toujours vivants, que tous les 3 habitent toujours pratiquement au même endroit où la photo a été faite. Et donc, c'est pour ça qu'il voulait absolument avoir cette photo, d'autant plus qu'ils connaissent depuis toujours cette image, sans savoir qu'elle était de Willy Ronis, pour la bonne raison qu'elle avait été publiée dans un journal qui s'appelait
La Vie catholique,
mais elle n'était pas créditée. Donc j'ai eu ce monsieur au téléphone qui m'a raconté toute l'histoire, et c'est comme ça que j'ai fait la 27e retrouvaille, presque 2 ans après la mort de Willy.
Et donc 50 ans plus tard, on apprend que ses 3 enfants de dos, en pèlerine dont on ne sait rien, s'appellent Aldo, Primo et Bruna. Ce sont des enfants d'Italiens.
Ce sont des immigrés d'Italiens, comme il y en avait beaucoup dans les Vosges à l'époque.
À quel moment il va décider d'arrêter complètement, de ne plus toucher à un appareil photo?
Ah, alors là, c'est quand, dans les dernières années de sa vie, il avait quand même quelques problèmes de santé. En particulier, il avait des problèmes pour marcher. Et comme lui, l'essentiel de ses photos, il les faisait en marchant, il les faisait en se promenant. Quand il a vu qu'il ne pouvait plus ne serait-ce que courir un tout petit peu pour aller d'un point à un autre, là, il a dit, c'est fini, j'arrête. Et comme pour le violon, il a posé l'appareil et il n'y a plus touché. Donc, en gros, il a arrêté de faire des photos en 2001, je crois.
Willy Ronis est mort à 99 ans.
Et des poussières.
Et oui, il m'avait promis d'arriver à 100 ans, puis elle n'a pas tenu ses engagements, c'est pas bien ça. Moi, j'aurais bien aimé qu'on fasse une grande fête pour ses 100 ans, mais bon.
Quelle trace a-t-il laissé
Il a laissé une poignée de photos, ce qui est déjà beaucoup. D'ailleurs, souvent, quand il faisait des dédicaces, c'est ce qu'il marquait. Une poignée de photos que j'ai glanées pendant 50 ans. Voilà.
Si mon existence professionnelle a s'est chahutée, a donné quand même une poignée d'images qui pèsent un certain poids, écrivait-il, cela s'est fait indépendamment de toute volonté délibérée, de toute stratégie ou tactique. Ça m'a à la fois démoli et blindé. Démoli car j'ai eu la frustration d'un artiste ne se sentant pas artiste. Blindé car je continuais à vivre, à rire, à traverser la vie sans trop de dommages.
Mais par contre, à la fin de sa vie, il a eu tous les honneurs qu'ont les artistes. C'est-à-dire qu'il a eu des décorations, il a eu la Légion d'honneur, il a été commandeur des arts et des lettres, le ministre l'appelait maître. Et ça ne le dérangeait pas vraiment.
Je n'ai pas été un photographe submergé de commandes. J'ai énormément travaillé pour Le Tiroir. Et je me disais, c'est des photos qui me font plaisir, c'est des petits défis que je relève, c'est des satisfactions que je m'offre. Je ne sais pas si ça servira un jour.
Marianne les regardait toutes ? Marianne était peintre.
Elle était intéressée par mes photos. Si, de temps en temps, elle me disait. Ben, quand j'ai fait le Nu Provençal, d'ailleurs, ça ne l'a impressionné ni elle ni moi, quand j'ai fait le tirage. On s'est dit, tiens, c'est pas mal, ça. Et on ne s'imaginait pas du tout quelle serait la destinée de cette photo-là, puisqu'on en parle encore maintenant que j'ai 99 ans bientôt, puisque c'est au mois d'août que j'aurai 99 ans. Eh bien, non, voilà. Je n'ai pas eu ce qu'on appelle une pratique heureuse. Mes bonheurs se plaçaient dans l'instant du déclic. Mais jusque-là, j'étais assez mélancolique. Parce que je me disais toujours, mais ces photos que j'accumule, qui m'apportent des joies, mais ça n'a sa complétude que dans la mesure où ça se traduit sur une image sur papier. Alors, est-ce qu'elle sera utilisée, cette photo, ou est-ce qu'elle ira dans le tiroir ?
C'est un beau mot, complétude. Mais la mélancolie, alors, elle est composée de quoi exactement ? C'est intéressant de s'arrêter un peu sur la mélancolie du photographe.
Elle est composée du contraste entre le bonheur de la prise de vue et l'incertitude de la destinée de l'image.
Quelle trace a-t-il laissé ?
Une trace d'harmonie, je pense qu'on ne peut pas laisser grand-chose de mieux, hein. De paix et d'harmonie. Et une grande émotion chez tous ceux qui l'ont connu. C'est vraiment... Je suis contente d'avoir connu Willy Ronis. C'est une chance.
C'était Willy Ronis, l'instant du déclic. Un documentaire de Julie Gacon et Yvon Croisier. Avec Pierre-Jean Amar, photographe, historien de la photographie. Francine de Roudille, cofondatrice de l'atelier Robert Doisneau. Sabine Weiss, photographe. Et Didier Deninx, écrivain. Attaché de production Claire Poinsignon. Archivina, Marie Chauveau. Bibliographie sur le site de France Culture.
Jusqu'au 2 janvier 2019, plus de 200 photos de Willy Ronis sont exposées au pavillon Carré de Baudouin à Paris. Et cette émission, vous pouvez la podcaster et retrouver toute la collection d'Une vie, une œuvre sur la page du site sur franceculture.fr, une page préparée par Pascaline Bonnet en collaboration avec Nemo Camus.